Dans Hébreux, au chapitre 1, au verset 9,
Thou hast loved righteousness,
tu as aimé la justice
and hated iniquity.
Et tu as haï l'iniquité.
Speaking of the Messiah,
en parlant du Messie,
Psalm 110,
dans le psaume 110,
is being quoted here.
Qui est cité ici,
Thy throne, O God, is
ton trône, ô Éternel, est pour toujours.
Actually, it's Psalm 45.
Le psaume
45.
Tu as aimé la justice, haï l'iniquité. Quand Christ est venu, il a aimé la justice. Il a haï l'iniquité. Donc Dieu, même ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie. Au-dessus de tes compagnons. C'est une relation directe entre la justice et la joie. Tourne avec moi dans le psaume 16. Et j'en profite pour saluer mes amis du Togo. C'est Sarah. Verset
11.
Tu me montreras le chemin de la vie. Dans ta présence, il y a une plénitude de joie. Dans la présence de Dieu, il y a une plénitude de joie. À ta main droite, la main droite de Dieu, il y a des plaisirs pour toujours. À la main droite de Dieu, il y a Christ et des plaisirs pour toujours. La main droite de Dieu. Et dans sa présence, il y a plénitude de joie. Parce que l'amour, on a étudié ce mois-ci le message de Charles Finney sur le thème de l'amour ne pense aucun mal. Alors que je pense et que je prie avec vous en tant que corps de Christ et que l'Esprit bouge avec nous, je suis de plus en plus en train de réaliser que ma joie est directement connectée avec l'amour et que cet amour, c'est un amour qui ne pense pas de mal. Dans 1 Jean 1, 4 et 5, l'apôtre écrit, ces choses sont écrites afin que ta joie soit parfaite ou pleine. La Bible a été écrite, ou les Écritures sont directement liées avec la pensée de Dieu. Et c'est directement lié avec ce phénomène qu'on appelle la joie. La joie, c'est le résultat d'une bonne façon de penser. La joie, c'est le résultat d'une conséquence. C'est une conséquence du cœur de Dieu dans nos cœurs. On avait peut-être une espèce de jouissance avant, mais on n'avait jamais la joie. Ça n'était un état d'esprit qui venait et qui passait suivant qu'on avait du plaisir ou pas, suivant les circonstances. Et si quelque chose se passait, donc on était content. En tant que, quand j'étais jeune garçon, je me rappelle quand c'était le vendredi de la semaine, le vendredi, j'étais tellement heureux, à 3h l'après-midi, j'étais complètement heureux. Et le lundi matin, j'étais tellement triste. Recommencer la semaine le lundi. Ça, ce n'est pas la joie, c'est juste une certaine jouissance. Mais la joie, c'est un état qui résulte de Dieu. Parce qu'il est dit, dans sa présence, il y a la plénitude de joie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a la joie dans la présence de Dieu? C'est parce que c'est à cause de sa pensée. Ses pensées. Pourquoi est-ce que ces choses-là ont été écrites afin que notre joie, notre pensée, cette doctrine qui nous est révélée, qu'elle nous donne de la joie lorsqu'on a la pensée de Dieu. On peut dessiner un petit diagramme ici. Donc il y a le cœur. Et le cœur, c'est la clé de la pensée. Dans Éphésiens 1, 18 et 4, 18. Lorsque la pensée est illuminée à travers le nouveau cœur, c'est le cœur qui est donné au nouveau croyant quand son cœur est illuminé par Dieu. Et avec ce cœur maintenant, on pense dans Romains 12, 3, 2 et 3, on a une pensée qui est renouvelée avec des pensées doctrinales. Si vous y pensez, en fait, une des raisons pour laquelle on se rassemble, c'est afin qu'on puisse nourrir et entendre la doctrine qui nous donne la joie. Et cette doctrine, lorsqu'elle est comprise du Saint-Esprit, elle nous rafraîchit. Elle nous donne la joie. On aime ça. Et ces choses-là ont été écrites afin que notre joie, je vous ai dit dans Jean 15, 11, je vous donne la joie et votre joie sera complète.
We could say that the little trouble we have, if we have an ocean, here's an ocean of love.
Imaginez un océan d'amour.
The little trouble we have is
les petits problèmes qu'on a sont juste à la surface de l'eau.
It's like the little trouble we have is just on the surface.
Ces petits problèmes sont vraiment à la surface de la vie. Parce que derrière nos problèmes, il y a Dieu. Dieu est celui qui est derrière et il est celui qui nous a donné quelque chose qu'on n'avait jamais auparavant. Et ça, c'est le cœur dans Romains 5, 5. L'amour de Dieu qui est déversé de nos cœurs, dans nos cœurs. Et maintenant, on est capable, dans des tas de scénarios différents, on pourrait mettre une liste ici des persécutions.
Actes
5,
41.
Les choses matérielles qui se détruisent. Hébreux 10, 20.
Les gens qui sont gazing stock means they were a spectacle. It's like a whole group of people surrounding these Christians who are now being publicly shamed.
Quand lorsque les chrétiens de la première église étaient mis à honte devant tout un public, ils trouvaient pourtant cela une joie et un privilège. La honte qu'ils pouvaient avoir, et pourtant ils trouvaient ces choses-là, ils le prenaient comme une joie, parce que ce cœur, il n'est pas facile de le blesser. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que ce cœur n'est pas facilement provoqué. Cet amour ne cherche pas à blâmer ou à trouver des erreurs imaginaires ou réelles. Ce cœur, ce nouveau cœur, on ne l'avait pas avant. C'est le véhicule par lequel Dieu révèle dans le monde sa pensée, sa nature. C'est l'amour. Et je le ressens ici, je le vois pendant la semaine. Et je l'entends au téléphone, je le vois dans le corps. C'est l'amour. Et on l'apprécie parce qu'on a été créé, on est créé pour l'amour, pour être aimé. Et c'est une façon de penser particulière dans laquelle on est aimé. Et on aime. La plupart des gens pourraient dire que c'est un peu aveugle parce qu'on ne voit pas les fautes autant qu'on voit Dieu et la pensée de Dieu concernant les fautes des autres. Ce n'est pas qu'on est naïf, mais c'est un amour qui va au-delà de nos fautes. Et un amour qui va au-delà de l'erreur et de la faute réelle ou imaginaire, parce que ça, c'est la nature de Dieu. Si Dieu nous rendait responsables, qui pourrait se tenir contre Dieu dans le psaume 130? Si c'était pas que sa justice se réjouit du jugement dans Jacques 2:13, on ne serait même pas là, même pas pendant une minute. On est tellement plein de fautes. On boit l'iniquité comme de l'eau. Il y a tellement de raisons pour notre condamnation. Mais ça, c'est une doctrine importante pour nous parce que non seulement dans Ésaïe 2 et 3, on puise dans le puits du salut, on puise notre joie. Mais aussi on comprend la doctrine et on réalise qu'on est en fait. On fait partie de la nature de Dieu sur la terre. Dans 2 Pierre 1, 4, pardon. Nous faisons partie. On est dans cette mentalité où la joie, c'est constamment une source de force pour nous. Néhémie 1, 10. C'est incroyable. Mais moi, il me faut être très prudent parce que je peux perdre ma joie. Dans 2 Corinthiens 6, dans leur pauvreté, ils avaient la joie. 2 Corinthiens 8 aussi. Ils avaient une pauvreté, mais pourtant ils avaient la joie. Dans le psaume 35 et 6, les pleurs viennent la nuit, mais la joie vient le matin. C'est ces petits troubles qui sont sur la surface et qui sont éparpillés dans ma vie. Et ces troubles sont réels. La pauvreté, la persécution, être mal compris, quelqu'un qui vous tient, qui vous accuse, qui vous en veut, de ne pas être capable d'être sociable, de devenir amer. Matthieu 18, c'est une portion incroyable. Tournez-y avec moi. Pensez à ça dans Matthieu 18, verset 24. On ne va pas passer trop de temps, mais c'est très important dans notre référence. Je vous encourage vraiment à lire la parabole dans Matthieu 18, versets 23 à 25. Et remarquez, on ne va pas le faire en détail, mais au verset 24, un homme qui avait une dette de 10 000 talents. J'ai lu dans un commentaire que c'était à peu près 4 millions de dollars. C'est une énorme somme. Cet homme ne devait pas juste un peu d'argent, mais beaucoup d'argent. Au verset 26, il a été pardonné et il s'est mis à genoux, il a adoré. Il a dit, « Seigneur, aie pitié de moi et je te paierai. » Et le maître, étant ému de compassion, lui remit sa dette. Au verset 28, le même serviteur s'en alla et sur son chemin trouva une personne qui lui devait 100 talents. C'est quelque chose du style 14 dollars. Et il le prit par la gorge et lui dit, « Paie-moi, sinon tu mourras. » Je vois dans cette histoire un autre type de cœur. Un cœur de l'homme qui a échoué, qui a un trou dans son cœur. Il a adoré, il a été pardonné. Et ensuite, en partant, il est devenu violent. Il est devenu impardonnable, impardonnant ou intolérant. Vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça? Il suffit que vous regardiez dans le miroir. Oh, merci, merci, j'arrive pas à croire que tu aies fait ça pour moi. Et puis, la personne se retourne. Hey, toi, tu dois me payer ces 14 dollars. Sans quoi, je te jette en prison. Lorsque le maître en a entendu parler, il a pris l'homme, regardez au verset 34. Le maître se mit en colère et le livra au tourment de la prison. Je crois qu'à ce moment-là, il avait perdu sa joie. Comment est-ce qu'il a perdu sa joie? Il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné. Il avait cette autre pensée ici. De ce cœur-là. Et cette pensée n'est pas capable. Elle est amère, elle est en colère, elle juge les gens, elle ne pardonne pas, et il a perdu sa joie. Et je pense à un homme dans une prison, derrière ses barreaux, il y a les mains sur les barreaux et il dit, « Laissez-moi sortir !» Et le geôlier lui dit, tu ne sors pas avant que tu aies perdu, que tu aies payé toute la grosse dette que tu avais. Quelle histoire. Comment est-ce que les gens perdent leur joie en ne sachant pas l'amour, en connaissant pas l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est tellement libre. L'amour de Dieu est tellement pardonnant. L'amour de Dieu est tellement miséricordieux. Tellement sage. L'amour de Dieu n'enregistre pas le mal, la douleur, la peine qui a été faite. Si on commençait à faire une liste de tous les maux qui sont dans le monde et qu'on cherche de la justice dans ce monde et qu'on commençait à vivre dans un monde où on pense au monde basé sur notre nature pécheresse, automatiquement, on serait mis dans un endroit où on ne pourrait pas soutenir la pression, on ne serait pas rempli de l'esprit, on ne vivrait pas dans la pensée de Dieu, on ne remplirait pas notre appel, on ne marcherait pas dans le mystère. Et Dieu nous dit, venez à moi et passez de ce cœur-là à ce cœur-ci, ce nouveau cœur, et apprenez de moi. Parce que dans ma pensée, je vois le cœur de Dieu avec amour. Je partage l'amour de Dieu avec les gens. Et je peux dire, je suis ici pour pardonner et pour aimer le perdu. Je suis ici pour venir voir le croyant et dire, va, tu es libre, il n'y a aucune condamnation. Et ça, c'est dans ma pensée. Je ne te condamne pas. Dans Romains 5, c'est incroyable. Sur la grâce de Dieu. La grâce veut dire sans un paiement. Sans un paiement. Dans Romains 11, 6, il est dit, si c'est la grâce, ce n'est pas les œuvres, si c'est les œuvres, ce n'est pas la grâce. Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, 8. Le nom de Dieu, la nature de Dieu est incroyable. Et pour nous d'être rafraîchis, ces choses-là ont été écrites afin qu'en lui, nous réalisions quelque chose de bien plus grand que le mal ou le bien. Vous rappelez de cette leçon sur les deux chaises, le mal, le bien, le mal, le bien. et qu'il y avait une dissonance intérieure, ce conflit intérieur qui cherche la justice et pour que des problèmes soient résolus. Je voudrais résoudre mes problèmes. Comme le gars qui a dit, tu me dois 14 dollars, que tu as intérêt à me payer ces 14 dollars, parce que si tu ne me payes pas ces 14 dollars, je vais t'enfoncer dans la terre. Tu as intérêt à me payer ces 14 dollars. Ah bon? Donc Dieu pourrait dire, ok. Tu veux penser cette pensée? Alors, éclate-toi bien dans ton petit trou. Parce que je te mets dans une petite pièce carrée et tu vas être accroché à ces barreaux pour le reste de ta vie. Et ça, c'est le type de vie que tu vas vivre. Et tu n'auras pas la joie parce que tu n'as pas l'amour. Et tu n'as pas l'amour parce que tu n'as pas ma pensée. Et tu ne veux pas perdre ta vie pour gagner ma vie. Et je te dis, change de direction. Et ce changement de direction, c'est la croix. Où je décide de perdre ma propre vie. Je décide de m'abandonner à Dieu et de dire, il me doit ces 14 dollars, Seigneur, il me doit 14 dollars. Et Dieu dit, ok, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me regarder à moi ou tu veux regarder à ces 14 dollars? Je veux mes 14 dollars. Et le Seigneur dit, ok, pas de problème, moi je vais t'enfermer dans cette petite pièce et tu seras livré au tourmenteur. Où est ta paix? Il n'y en a pas. Où est ta joie? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je veux mes 14 dollars. Et le Seigneur dit, ok, je viendrai te voir de temps en temps pour voir comment tu vas. Mais tu seras enfermé jusqu'à ce que toi tu payes les 4 millions de dollars que tu me dois. Quand tu les auras payés, alors je pense, je réfléchirai à te laisser sortir. Paye pour tes péchés d'abord, et puis je te laisserai sortir. Ça va te prendre des années à payer. Parce que le Maître ne te donne pas de miséricorde. Il y a le salut, il y a le Fils de Dieu sur une croix, on a toute la miséricorde qu'il nous faut. Vous êtes assis dans les lieux célestes, mais vous refusez d'apprendre à connaître la pensée de Dieu. Et le Seigneur dit, ok, quelle pitié, tu pourrais être un homme puissant qui partage l'amour et qui a la joie dans ton cœur et qui vit avec moi, toi et moi, mais plutôt tu préfères échanger ça pour les 14 dollars. Vas-y. Je viendrai te voir dans un an ou deux pour voir comment tu vas. Bien sûr, le Seigneur, il vient nous voir toutes les secondes. Et je pense que Dieu n'a aucun problème qu'on passe 10 ou 15 ans dans une prison. Il n'a pas besoin de nous avec notre chair dans cette vie. Il cherche ceux qui vont vivre par la foi et qui vont vivre dans l'esprit avec un cœur nouveau et qui vont savoir qui il est, car dans sa présence, il y a une plénitude de joie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et maintenant, pour terminer, Habakkuk 3:16-17. Même lorsque les vaches ne produisent rien, je me réjouirai dans le Seigneur notre Dieu. Dans le psaume 132:16, que les justes s'écrient vers le Seigneur. Esdras 6, lorsqu'ils ont construit le temple, ils avaient une joie incroyable. David, lorsqu'il a dansé devant l'arche, dans 1 Chronique 16, avec une joie incroyable. Exode 15, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Myriam et Moïse, ils avaient une joie incroyable parce que Dieu était avec eux. Et son amour dans leur cœur. Et ils savaient que beaucoup d'eau ne peuvent pas éteindre l'amour. Peut-être qu'ici, vous cherchez la justice et on vous fait du mal. Mais beaucoup de justice n'existe pas et est repoussée. Quand sera-t-elle exécutée complètement? au grand trône blanc. Peut-être que vous ne le recevrez pas dans cette vie, mais vous le retrouvez au grand trône blanc de Christ. Et là, ce sera bien au-delà de qui avait tort, qui avait eu droit, mais c'était qui a manifesté l'amour de Dieu, qui a la joie dans leur cœur, et qui a eu cette joie dérivée du cœur de Dieu. Et sur ce papier de Charles Finney, il dit « Notre propre aveuglement nous fait croire abuser alors qu'on ne l'est pas. »
Cet homme
est honnête et qui voit les choses telles qu'elles sont, il pourrait dire je mérite mille fois plus de ce que j'ai reçu. On m'a pardonné 4 millions et le gars me doit $14. En fait, c'est comme si je devais lui donner de l'argent à moi. Mais tout ceci est changé par l'amour. Et je sais que l'amour de Dieu qui est dans mon cœur est maintenant la pensée que l'on a envers les gens. Ce n'est pas combien j'ai été abusé, mais c'est combien Dieu m'a guéri. Combien Dieu, je peux donner la miséricorde aux gens. Combien je peux pardonner 7 fois 7 fois, ou 7 fois 70 fois. Combien je peux aller plus loin vers les gens qui sont perdus. Et dans le psaume 126, il est dit que les païens disent « Le Seigneur a fait de grandes choses ». Et donc, ils se sont réjouis. C'est comme si vous étiez dans une prison, c'est difficile d'évangéliser. Il dit, je veux que tu croies en Jésus parce que c'est tellement incroyable et te voilà derrière les barreaux. La personne te regarde en pensant. Mais quand on a la joie, c'est une des plus grands outils d'évangélisation. L'évangélisation, c'est d'avoir un cœur pour les gens et pour leurs troubles, et de leur dire, je réalise que tes problèmes sont sur la surface, mais en dessous, ces gouttes d'amertume, c'est un océan d'amour, que Dieu est amour. Et si vous pouviez découvrir Christ, et Christ vous donnerait la joie dans tes problèmes, il te remplirait, il te satisferait, parce qu'il t'aime et parce qu'on t'aime nous aussi. Et c'est pour ça qu'on te parle, parce qu'on a cet amour, cette joie dans nos cœurs. Allons cet été, ce printemps, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, pensons que ce printemps, c'est la joie que l'on ressent. C'est l'amour que l'on a dans ce monde de ténèbres. Et on est capable de dire, je ne sais pas concernant ceci ou cela, mais je sais que l'amour ne s'arrête jamais. Je sais que l'amour n'échoue jamais, qu'il supporte tout, croit tout. On ne blâme pas les choses, mais on croit. On encourage, on est créatif dans nos attitudes, dans nos ministères, dans notre implication avec les gens. C'est tellement incroyable d'être avec des croyants qui ont la joie dans leur cœur. C'est comme si les relations découlent et elles sont faciles. Elles ne sont pas difficiles à entretenir. Ce sont juste des relations qui découlent de l'amour, de la joie, d'une attitude. Non, pas de problème. C'est une joie de regarder à nos voisins, dans nos voisinages, de les aimer. Aimez vos voisins. Écrivez sur un papier le nom de vos voisins. Et dites-le dans vos prières, j'aime mon voisin. Et son nom, c'est un tel. Et mon voisin, c'est un serviteur potentiel de Dieu. On a une joie, une attitude qui peut toucher les cœurs et les vies des gens. Parce que ça, c'est la nature de Dieu. Et puis enfin, pour terminer, qu'est-ce qui peut vaincre cela? Beaucoup de choses ne peuvent pas vaincre cet amour. C'est ce qui a motivé Jésus-Christ d'aller à la croix et de mourir et d'être obéissant à son Père céleste. C'est la doctrine qui était la source de sa joie. Il a supporté la croix, il a méprisé la honte à cause de la joie qui était devant lui, il a supporté tout cela. Et donc nous aussi, nous pouvons supporter dans nos vies avec nos familles, nos amis, nos frères et sœurs, la famille de proches ou de loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Mais 1 Corinthiens 13, l'amour.
On
met sur ces gens cette pensée
et
on aime et on supporte et on donne du counseling et on investit, encourageant, croyant. Et ça, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Et ça, c'est la dernière chose. Si on fait cela, je suis sûr qu'on ne perdra pas notre joie. Je crois que notre joie sera présente. Ce sera une vraie joie qui vient de Dieu. Ce sera notre force. La joie du Seigneur est notre force. Et ça va aussi nous aider dans notre ministère du corps.
Ce
sera l'Esprit de Dieu dans le corps. Et ça aura aussi un impact sur les non-croyants. On tapait à des portes cet après-midi. J'ai dit à une femme, on vient de l'église là-bas. C'est une église vraiment bien, tu devrais visiter. Elle dit, j'ai déjà visité, c'est une belle église. Et une dame qui est passée devant l'église, elle me dit, est-ce que tu vas dans cette église? Je dis, oui. Et elle me dit, moi aussi, j'y vais. Donc, on s'est donné un hug. Dans la pensée, dans le nouveau cœur, dans l'attitude envers la vie, c'est ce que les gens cherchent. Les gens ont faim d'amis, de relations, de fidélité, de pardon, de miséricorde. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ces choses-là si on n'a pas un cœur nouveau et l'amour de Dieu dans ce cœur qui nous enseigne à comment penser? Et lorsqu'on pense de cette manière, la joie n'a pas de fin et on peut vraiment vieillir ensemble, devenir vieux et fripé. On sera soit doux ou amer, comme Naomi qui disait, appelez-moi Mara. Et nous, on dit, non, Naomi, on t'appellera Naomi, qui veut dire plaisant. Car Dieu a vu ton affliction et il t'a donné Ruth, une réponse à tes problèmes. Et ça, c'est incroyable. On va de l'avant avec des pleurs, mais on revient avec la joie parce qu'on a trouvé la nature de Christ dans notre vie, dans le chemin de la vie, à nos travails, dans les prisons, dans nos endroits de difficulté. On ne fait pas partie du problème, nous, on fait partie de la solution. Et on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour que ça change, mais l'amour n'échoue jamais. Elle est patiente, elle supporte, elle est pleine de bonté, et elle n'échoue jamais. Elle ne vous échouera à vous jamais, et peut-être dans votre situation, ce sera très rédemptif. Et si ça ne l'est pas, et que quelque chose est perdu, alors ce n'est pas notre problème. C'est Dieu qui a une solution pour ça. Nous sommes juste des ministres de l'amour de Dieu. Priez avec moi. Ce soir, si vous êtes ici et que vous n'avez jamais accepté Christ, faites-le dans votre cœur et dites à Jésus, par la foi, dites-lui, Seigneur, viens dans ma vie, lave mes péchés, sauve-moi, viens dans ma vie et sauve-moi. Je te prie, donne-moi la joie, une joie qui ne va jamais échouer. Ô Dieu, une force profonde dans un temps difficile parfois. Mais ça, ce n'est rien comparé avec les ressources éternelles d'un amour qui n'échouera jamais. Oh Dieu, et levez votre main si vous demandez Jésus d'être votre sauveur ce soir. Levez votre main. Et s'il y a quelqu'un sur Internet qui veut dire à Jésus, viens dans mon cœur. Et Seigneur, la repentance. Amen. Et écoutez juste cette dernière chose. La repentance, c'est quelque chose d'incroyable. On aime tellement ça, c'est tellement plein de santé. La repentance, c'est bon pour la santé. Dieu, j'ai eu tort. Dieu, pardonne-moi. Seigneur, je ne veux pas faire ceci ou cela. J'aime pas refaire cette chose-là. Dieu, donne une conviction dans mon cœur. Je me soumets, je me repens, j'ai besoin que tu me changes et que tu me fasses passer de mon vieux cœur immédiatement dans une seconde. Et c'est une bonne repentance, une bonne tristesse. C'est de là que vient la joie, avec la repentance.
Mais
il y a des croyants qui n'ont aucune joie. Et une des raisons, c'est
qu'ils
ne sont pas brisés, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas soumis. Comme chacun de nous pouvons l'être. Et on pourrait dire, je sais que j'ai raison. $14.
I got it written down. I am right. I know I am right.
J'ai raison. Je sais que j'ai raison. Et le Seigneur dit, tu n'as aucune idée de ce que c'est que j'ai pour toi. Mais il te faut te repentir et t'humilier. Sous moi, Dieu, je suis Dieu et toi, reste silencieux. Et je te remplirai de ma joie, je te remplirai de mon esprit, et oublie les $14 qui ne veulent rien dire du tout. Et tu pourras devenir riche dans le Seigneur et avoir un ministère et faire des choses et être qui tu es supposé être. Mais ça ne se passera pas s'il n'y a pas un cœur brisé et une repentance dans mon cœur. Et pourquoi ne pas faire cela? Si c'est une clé pour que je puisse marcher dans cette grâce incroyable, avec cette pensée puissante, où on peut devenir une personne âgée avec sagesse, avec des cheveux blancs et la joie et des enfants autour de vous et vous êtes tellement plaisant et puissant et sage.
Ou alors
vous pouvez être un petit gars croûteux dans sa cage derrière ses barreaux. Ou alors vous voulez être un croyant rempli de l'esprit, heureux dans le corps, quelqu'un qui porte du fruit et qui abonde dans la joie du Seigneur. C'est notre choix. Christ l'a fait, nous on l'a reçu, maintenant vivons dans cela. Merci à Dieu. Amen.